Walter Scott, Quentin Durward, chapitre 10, la galerie de Roland. Avec une patience que beaucoup d'autres princes auraient trouvée dégradante, la patience d'un homme qui s'amuse, le roi de France attendit que son garde du corps eût satisfait les exigences d'un appétit de 20 ans. On peut supposer d'ailleurs que Quentin eut le bon sens et la prudence de ne pas mettre la patience du roi à une trop longue épreuve. Plusieurs fois, il voulut interrompre son repas. Ce fut Louis qui l'en empêcha. « Je vois dans ton œil, lui dit-il d'un ton de bonne humeur, que ton courage n'est pas seulement à moitié dompté. En avant, Dieu et Saint-Denis, encore une charge. Ah, maintenant, n'oublie pas ton bénédicité et suis-moi. » En suivant le même chemin, le roi le ramena dans la galerie de Roland. « Fais bien attention, dit le roi d'un ton de commandement. Tu n'as pas quitté ce poste un seul instant. C'est ce que tu as à répondre à ton parent et à tes camarades. Et puis, écoute bien, pour fixer ce souvenir dans ta mémoire. Je te donne cette chaîne d'or. » Et il lui jeta sur le bras une chaîne d'or d'une valeur considérable. Si ma mise est des plus simples, ceux en qui j'ai confiance ont toujours les moyens de faire figure. Mais quand une chaîne comme celle-ci ne suffit pas pour lier la langue d'un homme, mon compère l'ermite a une amulette pour la gorge qui opère des merveilles. Et maintenant, attention. Aucun homme, sauf Olivier et moi, n'entre ici ce soir. Mais il viendra des dames, par une des portes, peut-être par l'autre, peut-être une par chaque porte. Tu peux leur répondre si elles t'adressent la parole. Seulement, comme tu es de garde, ta réponse doit être brève. Mais tu ne dois pas leur adresser la parole, ni engager avec elles une conversation prolongée. Seulement écoute ce qu'elles diront. Tes oreilles sont à mon service aussi bien que tes mains. Je t'ai acheté, corps et âme. En conséquence, si tu entends quelque chose dans leur conversation, garde-le dans ta mémoire jusqu'à ce que tu me l'aies communiqué. Après quoi, tu l'oublieras. Maintenant que j'y pense, il vaudra mieux qu'on te prenne pour une recrue écossaise, arrivant tout droit de ces montagnes et ne sachant pas encore un mot de notre langue. Bon, si on te parle, ne réponds pas. Cela mettra les gens à leur aise, et ils parleront plus librement devant toi. Tu me comprends. Adieu. Sois prudent, et tu as un ami. » Quentin se mit à réfléchir. Évidemment, la dame aux luttes était une des personnes sur lesquelles le roi avait appelé son attention. Il se promit donc de suivre en partie les instructions du roi et d'écouter chaque parole qui tomberait de ses lèvres, pour savoir si la magie de sa conversation allait de pair avec le charme de sa musique. Mais il se jura, non moins sincèrement, de ne rapporter au roi que les paroles qui ne pourraient faire aucun tort à la dame de ses pensées. À la fin, il entendit craquer et crier une porte. Mais hélas, ce n'était pas celle derrière laquelle il avait entendu de la musique. La porte s'ouvrit donc, et une femme entra, escortée de deux autres, auquel elle fit signe de ne pas la suivre. Rien qu'à sa démarche inégale, Quentin reconnut la princesse Jeanne. Avec le respect dû à son rang, le jeune garde se redressa, prit une attitude de silencieuse vigilance et abaissa son arquebuse devant elle, lorsqu'elle passa pour gagner l'autre extrémité de la galerie. Elle lui rendit son salut par une gracieuse inclination de tête. Il eut le temps de la voir plus distinctement que le matin. Pendant qu'il la suivait du regard, avec un mélange de curiosité et de compassion, deux dames apparurent à la porte vers laquelle elle se dirigeait. L'une d'elles était la jeune fille, qui, sur l'ordre de Louis, était venue lui servir des fruits, pendant que Quentin faisait honneur au fameux déjeuner à la fleur de lys. Il la trouva beaucoup plus belle que la veille, sans doute parce qu'il avait appris depuis que c'était une comtesse, une riche héritière, et non pas la fille d'un hôtelier. Sa toilette, pourtant, était toujours aussi simple. C'était un costume de grand deuil, sans ornement. Quand il aurait dû lui en coûter la vie, Durward n'aurait pu s'empêcher de rendre à la jeune comtesse et à sa compagne le même hommage qu'il avait rendu à la princesse de sang royal. Elles reçurent son salut comme des personnes habituées au respect des inférieurs et le lui rendirent avec courtoisie. Le jeune soldat se figura, et peut-être était-ce une simple illusion, que la jeune dame, au moment où elle répondait à son salut militaire, avait rougi légèrement en baissant les yeux. Sa compagne, en grand deuil comme elle, était arrivée à cet âge où les femmes tiennent plus que jamais à leur réputation de beauté. On voyait qu'elle n'avait pas encore renoncé à plaire. Elle était grande et gracieuse, avec une démarche peut-être un peu hautaine. Elle rendit à Quentin son salut avec un sourire de gracieuse condescendance. L'instant d'après, elle dit tout bas à sa compagne quelques mots à l'oreille, et la jeune fille se tourna vers le soldat par complaisance et répondit quelques mots à l'autre dame, mais sans lever les yeux. Quentin ne put s'empêcher de croire que l'aînée des deux dames avait fait allusion à sa bonne mine. Mais il n'eut bientôt d'yeux et d'oreilles que pour la rencontre de la princesse Jeanne avec les deux étrangères. À leur apparition, elle était restée immobile pour les recevoir, et comme embarrassée de sa personne. L'aînée des deux dames, ignorant encore à qui elle parlait, prenait les airs d'une personne qui confère un honneur au lieu d'en recevoir un. Je suis heureuse, madame, dit-elle avec un sourire de condescendance et d'encouragement, qu'on nous octroie enfin la société d'une personne aussi respectable que vous paraissez l'être. Je dois dire que ma nièce et moi, nous n'avons pas eu jusqu'ici grandement à nous louer de l'hospitalité du roi Louis. Non, ma nièce, ne me tirez pas sur la manche. Je suis sûre que je lis dans les regards de cette jeune dame de la sympathie pour notre situation. Depuis notre arrivée, belle madame, nous n'avons pas été beaucoup mieux traitées que des prisonnières. Après nous avoir invitées 1000 fois à mettre notre cause et nos personnes sous la protection de la France, le roi très chrétien nous a donné d'abord pour résidence une vulgaire auberge, et ensuite un recoin de ce vieux château, d'où l'on ne nous permet de sortir qu'au coucher du soleil, comme si nous étions des chauves-souris ou des hiboux. Je regrette, dit la princesse, embarrassée au point de bégayer, que nous ayons été empêchés jusqu'ici de vous recevoir selon vos mérites. Votre nièce, j'en suis sûre, est plus satisfaite. Beaucoup, beaucoup plus que je ne puis l'exprimer, répondit la jeune comtesse. Je ne demandais qu'une chose, être en sûreté. Et j'ai trouvé par surcroît le secret et la solitude. Silence, petite sotte, dit l'autre dame. Parlons selon notre conscience. Je l'avoue, ce voyage ne me laisse que des regrets. Je comptais sur une magnifique réception, tournois, carrousel, fêtes de toute espèce. Au lieu de cela, je n'ai trouvé que la réclusion et l'obscurité. La meilleure société que le roi nous ait présentée, ça a été un bohémien vagabond, pour nous servir d'intermédiaire dans notre correspondance avec nos amis de Flandre. Qui sait? Peut-être songe-t-il à nous tenir en cage pour le reste de notre vie, afin de se saisir de nos états, après l'extinction de l'ancienne famille de Croix. Le duc de Bourgogne n'était pas si cruel. Il offrait à ma nièce un mari, un mauvais mari, il est vrai. J'aurais cru le voile préférable à un mauvais mari, dit la princesse, qui avait eu beaucoup de peine à trouver l'occasion de placer un mot. On voudrait au moins avoir le choix, madame, répliqua la dame qui parlait avec tant de volubilité. C'est, Dieu le sait, pour le compte de ma nièce que je parle, car pour moi, il y a longtemps que j'ai renoncé à l'idée de changer de condition. Vous souriez? Eh bien, par la messe, c'est vrai. Mais ce n'est pas là une excuse pour le roi, dont la conduite, comme la personne, me fait songer plutôt à ce vieux Michaud, le changeur de gants, qu'au successeur de Charlemagne. Arrêtez, dit la princesse, non sans quelque âpreté. Souvenez-vous que vous parlez de mon père. De votre père? S'écria la dame fort surprise. De mon père, répéta la princesse avec dignité. Je suis Jeanne de France. Mais ne craignez rien, madame, reprit-elle avec sa douceur habituelle. Vous n'aviez pas l'intention de m'offenser, et je ne me sens pas offensée. Usez de mon influence pour rendre plus supportable votre exil et celui de votre charmante nièce. Hélas, c'est bien peu de choses que je puis vous offrir, mais je l'offre de bon cœur. Ce fut avec une profonde révérence que la comtesse Améline de Croix, tel était le nom de la tante, reçut l'offre obligeante de la princesse. La princesse Jeanne s'assit avec une dignité qui lui allait fort bien et pria les deux étrangères de s'asseoir à leur tour, l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. La plus jeune accepta cette offre avec une timidité qui n'était point jouée, la tante avec une affectation de grande humilité et de profonde déférence. Elles entamèrent alors une conversation, mais elles parlaient si bas que la sentinelle ne pouvait rien entendre. Les dames causaient depuis un quart d'heure à peine quand une porte s'ouvrit, livrant passage à un homme qui avait les épaules couvertes d'un manteau de cavalier. Se conformant aux ordres du roi, Quentin marcha droit à lui et lui enjoignit de se retirer immédiatement. Par ordre de qui? Demanda l'étranger d'un ton de dédaigneuse surprise. Par ordre du roi, répliqua Quentin avec fermeté. La consigne ne concerne pas le duc d'Orléans, dit le duc en se dépouillant de son manteau. Le jeune homme hésita un instant. Mais comment employer la force contre le premier prince de sang, sur le point, à ce que l'on disait, de s'allier à la famille même du roi? Votre Altesse, dit-il, est un trop grand personnage pour que je m'oppose à son bon plaisir. J'espère que votre Altesse voudra bien me rendre ce témoignage que j'ai fait mon devoir dans la mesure où me le permettait sa volonté. On ne vous blâmera pas, jeune soldat, dit d'Orléans, et passant outre, il rendit ses devoirs à la princesse avec cet air de contrainte qui ne le quittait jamais quand il s'adressait à elle. Il avait dîné, dit-il avec Dunois, et apprenant qu'il y avait de la société dans la galerie de Roland, il avait osé prendre la liberté de se présenter. La pauvre princesse rougit, ce qui la rendit presque jolie, et se hâta de présenter le prince aux deux comtesses de Croix, qui l'accueillirent avec le respect dû à son rang. La princesse, lui montrant une chaise, l'engagea à prendre part à la conversation. Le duc déclina l'offre qui lui était faite et refusa la liberté de s'asseoir sur un siège en si haute société. Mais prenant un coussin sur un des bancs, il le déposa aux pieds de la jolie comtesse de Croix et s'assit dessus de façon à lui accorder la plus grande part de son attention, sans avoir l'air de négliger la princesse. Les compliments qu'il lui prodiguait ne faisaient réellement plaisir qu'à une seule personne de la société, la comtesse Ameline. Elle voyait déjà, en espérance, la dignité d'une alliance entre le premier prince du sang et sa nièce, dont la naissance, la beauté et la richesse auraient pu justifier une pareille ambition, si l'on avait pu mettre de côté les projets de Louis XI. La jeune comtesse n'écoutait les galanteries du duc qu'avec un mélange d'inquiétude et d'embarras, et de temps à autre jetait un regard suppliant à la princesse, comme pour lui demander de venir à son aide. Mais l'offense faite aux sentiments de Jeanne et sa timidité naturelle la rendaient incapable de tout effort pour rendre la conversation générale. Bientôt, sauf quelques interjections polies de dame Ameline, le dé de la conversation fut tenu uniquement par le duc, qui avait pris pour texte de ses compliments la beauté de la jeune fille. À la fin, la comtesse Isabelle fit un effort décisif pour couper court à une scène d'autant plus pénible pour elle qu'elle souffrait du chagrin de la princesse Jeanne. Quant à la princesse, incapable de supporter plus longtemps de se voir négligée par son fiancé, elle se renversa en soupirant contre le dossier de sa chaise. Ce soupir rappela le duc de la région des romans. Dame Ameline demanda aussitôt si son altesse se trouvait mal. Un élancement soudain au front, dit la princesse en essayant de sourire. Mais cela sera passé dans un instant. Mais sa pâleur croissante donnait un démenti à sa parole. La comtesse Ameline demanda de l'aide, car la princesse était sur le point de s'évanouir. Le duc, se mordant la lèvre et maudissant la folie qui l'empêchait de veiller sur sa langue, s'élança pour aller avertir les suivantes de la princesse, qui se tenaient dans la pièce voisine. Lorsqu'elles accoururent avec les remèdes ordinaires, le prince ne put se dispenser, en sa qualité de cavalier et de gentilhomme, de prêter son assistance pour la soutenir et la faire revenir à elle.